Go, la review d'Ipress JB.
Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud,
Deezer et YouTube.
C'est pas sexy Sarah ça?
C'est pas sexy choucroute Sarah ça?
Chaque matin, peu avant 7h, c'est encore mieux qu'un café.
J'ai la forme et je frétille comme une petite truite toute la journée.
Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans votre podcast quotidien 100% jeux vidéo, bienvenue dans la revue de presse JV, moi c'est Bruno Roca, et vous le savez, durant 15 ou 20 minutes à peu près, parfois plus, parfois un peu moins, on va causer JV, je vous livre directement dans les Isgourdes l'actu que j'ai retenu, j'ai arpenté l'internet mondial pour vous ramener des news qui je pense méritent d'être traitées, et sans plus tarder, je pense que l'on peut directement attaquer. Allez, c'est parti. Uncharted, journal d'un explorateur, c'est le bouquin, le dernier bouquin de Third Edition, une maison d'édition dont je vous ai déjà maintes et maintes fois parlé dans cette émission. C'est un éditeur que j'affectionne tout particulièrement puisqu'ils font de la qualité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ce ne sont pas les seuls, mais ils font partie néanmoins de mes petits chouchous. Bref, le bouquin est signé Nicolas Dénéchaud, alors j'espère que je prononce bien son nom, il m'excusera si ce n'est pas le cas. Et Bruno Provezza, l'éditeur, nous dit que Uncharted a marqué durablement l'industrie de par son action débridée, sa réalisation de haute volée et son haut degré de finition. La saga est devenue l'équivalent des blockbusters du cinéma hollywoodien. Pourtant, nous dit l'éditeur, elle n'oublie pas pour autant de rester un jeu vidéo. Et oui, contrairement au jeu de David Cage. Bref, excusez-moi pour cette petite sortie inopinée. Donc en permettant, nous dit Third Edition, un attachement fort aux personnages et en soulignant leur interaction, poussant plus loin la qualité de la narration du médium. Uncharted a réussi à s'imposer comme une saga incontournable en réalisant un alliage subtil entre fond et forme, procurant du divertissement tout en basant son propos sur des figures historiques et des événements marquants de l'histoire, analysé également dans cet ouvrage. Il y a donc une édition classique, il y a une édition, bien sûr, comme toujours, First Print, qui comprend donc le bouquin, bien sûr, une couverture alternative, une jaquette reprenant la couverture de la version classique, un ex-libris de Sylvain Sarel, très talentueux, soit dit en passant, et le livre au format e-book, ce qui est toujours intéressant, vous en conviendrez. Ceux qui me suivent depuis quelques temps savent l'attachement que j'ai pour le studio Naughty Dog, pour leur boulot, même si effectivement il y a eu beaucoup de remue-ménage un petit peu quand même chez eux depuis quelques mois. J'ai souvent dit que, et même s'il est de bon ton en ce moment, enfin depuis quelques mois, de casser Uncharted alors que c'est absolument génial, la 7ème merveille du monde quand ce n'était pas très connu, mais depuis que ça a vraiment explosé, surtout avec le 2, il est de bon ton de casser un petit peu la saga, sachant que pour moi, elle représente une alliance, un métissage complètement renversant des codes cinématographiques sans mettre le joueur sur le banc de touche. C'est un jeu vidéo avant tout, mais qui a parfaitement ingéré dans son ADN les codes du cinéma hollywoodien, et c'est super bien écrit, la réalisation est complètement folle, et justement, à ce propos, je ne vais pas parler à la place des auteurs, puisque les deux bougres ont été interviewés par Uncharted France, uncharted-france.fr, là pareil, je vous en avais déjà parlé, je pense que ça devait être au début de la revue de presse JV, vers septembre-octobre 2017, et c'est un site voilà, que j'aime énormément également, qui est en France, je pense, le plus agréable concernant Uncharted et tout ce que fait un petit peu Naughty Dog, The Last of Us également. Je vous mettrai le lien dans la description de l'émission. Mais les deux auteurs donc ont été interviewés par le site. J'ai retenu juste quelques passages, parce que l'interview est bien plus longue. Nicolas Dénéchaud, alors je m'excuse encore si je le prononce pas correctement. Il nous dit que le livre donc reprend les grandes lignes, donc je le cite, des autres ouvrages de la maison d'édition, c'est-à-dire un focus sur la création des titres, l'histoire du studio, des développements. Puis une large partie s'attarde sur l'univers. Dans le cadre d'Uncharted, c'est un peu particulier, nous dit Nicolas, puisque l'univers s'inspire à la fois du réel et des mythes et légendes préexistantes. On trouvait ça, nous dit-il, intéressant de creuser un peu cette inspiration et de raconter plus en détail ces mêmes légendes pour enrichir la culture du lecteur et amateur d'Uncharted. Enfin, la partie décryptage du livre s'oriente vers une analyse plus poussée du gameplay et de certaines thématiques comme la narration ou le féminisme. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse en parlant de féminisme. J'ai terminé très récemment Uncharted The Lost Legacy, hein, qui met en tête d'affiche un duo absolument cataclysmique, hein, Chloé et Nadine. Et écoutez, en parlant de féminisme, la fin, je l'ai trouvée absolument jouissive. Vraiment dans un esprit girl power complètement débridé, absolument grisant. Électrisant, galvanisant, dirais-je. Bref, voilà toute la maîtrise de Naughty Dog, même s'il y a quelques petites redondances, effectivement, quand on est fan de la saga Uncharted comme moi, on commence à retrouver certaines mécaniques qui vraiment, voilà, parfois peut-être tournent en rond, mais c'est tellement bien exécuté, et puis c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien réalisé. Bref, je m'emporte, comme d'habitude. Et donc je continue, hein. Nicolas nous dit personnellement, hein, et c'est vraiment subjectif, c'est surtout la narration et l'ambiance du jeu. J'ai un affect particulier pour ce genre d'exotisme, et avec un emballage aussi exceptionnel, c'est un cadeau inestimable pour moi. Je suis d'accord avec toi, cher Nicolas, que je ne connais pas, mais je le salue, ça doit être un garçon très bien. Il nous précise aussi qu'après avoir rejoué à tous les épisodes un paquet de fois dernièrement donc, ce qui lui a surtout sauté aux yeux, c'est l'exceptionnel polish apporté à tous les niveaux du jeu, et ce depuis le premier épisode, qui assurera à la série, nous dit-il, une certaine pérennité malgré l'âge. Enfin, dit Nicolas, c'est en me penchant dessus que j'ai été relativement estomaqué du respect des légendes dont les auteurs s'inspirent. Je pensais naïvement que Naughty Dog avait tordu l'histoire à foison pour y intégrer ses intrigues, mais comme le verront les lecteurs, c'est loin d'être le cas. Et Bruno Provenza nous dit à un moment donné dans cette interview qu'en plus des points soulevés hein, donc par Nicolas, il ajoute hein, que ce sont les méthodes de travail chez Naughty Dog et l'organisation de la société qui l'ont vraiment interrogé, des points qu'il aborde ouvertement et sans langue de bois dans le livre. Alors il nous dit, certes, hein, je le cite, hein, le studio est coutumier de grands titres, mais à quel prix ? Le nombre de démissions est particulièrement élevé ces dernières années, encore récemment avec Sean Eskeg, hein, le co-réalisateur justement de The Lost Legacy, partir grossir les rangs de Crystal Dynamics. Alors ça, c'est juste un petit bout hein, de cette interview. Je vous invite à aller sur Uncharted France de toute façon. Donc je salue les tenanciers. Et bah écoutez, je ne sais pas vous, mais ce livre, voilà, il me tarde de le lire car voilà, j'aime Uncharted, j'aime ce que fait Third Edition. Et surtout, vous le savez, celui que j'attends aussi encore, peut-être par-dessus tout, c'est le bouquin qu'ils vont nous sortir, alors je crois que c'est vers avril, hein, si je ne dis pas de bêtises, sur Yoko Taro, le papa des Nier et des Drakengard. Alors là, excusez-moi, mais je le répète, je radote, mais enfin vous savez, à nos âges, hein, c'est comme ça, je frétille comme une petite truite, oui, je persiste et signe. On parle souvent à tort ou à raison hein, de l'addiction aux jeux vidéo, souvent hein, en disant beaucoup de bêtises, en tout cas dans les grands médias mainstream. Ce matin, j'aimerais vous parler du secret de Laurence, hein, le secret de Laurence plus exactement, un jeu vidéo dont le but hein, est de mieux détecter l'alcoolisme féminin. Un alcoolisme, hein, nous dit le site addicted.fr, qui passe très souvent inaperçu. Avant de continuer, hein, il est primordial de rappeler que Addicted, c'est un fonds d'action contre les addictions, un fonds de dotation qui a pour objectif, hein, nous dit le site officiel, hein, de réunir toutes les parties prenantes pour informer et progresser ensemble dans la lutte contre les addictions. Sur ce site, hein, sur la page traitant du jeu Le Secret de Laurence, on nous explique, hein, je cite, hein, qu'en France, on estime que près d'une femme sur 10 abuse d'alcool. Il s'agit le plus souvent d'un alcoolisme caché, d'autant plus difficile à déceler qu'on n'a pas les clés de lecture pour interpréter correctement les signes de cette maladie. Pour sensibiliser le public sur cette problématique, a été créé donc à l'identique l'appartement de Laurence Cottet, une ancienne alcoolique, et on reviendra sur cette personne dans quelques minutes. C'est un jeu donc qui s'est présenté sous deux formes différentes, carrément en escape game, c'est-à-dire une simulation dans le monde réel où l'appartement avait été reconstitué, hein, l'appartement de Laurence Cottet, et où divers joueurs devaient trouver donc des indices dans cet appartement pour savoir ce qu'il s'y était passé, ce qui était arrivé à celle qui habitait ces murs. Et il y a aussi un jeu donc, qui est jouable sur navigateur en français ou en anglais. Je vous mettrai le lien bien évidemment dans la description de l'émission. Le site nous dit que plus de 7000 joueurs ont joué à ce jeu, donc issu hein, de la campagne d'Addicted, pour sensibiliser donc sur l'alcoolisme féminin. Alors la subtilité avec ce jeu, c'est que ceux qui ont participé devaient donc percer le secret hein, de Laurence savoir donc ce qui lui était arrivé en observant chaque pièce, en observant donc ses traces du quotidien. Et donc, le site nous dit que parmi ces joueurs, seulement 3 ont réussi à percer le secret de Laurence, hein, à savoir donc son alcoolisme. L'opération, le but, hein, de ce jeu, c'est de démontrer qu'il est facile de passer à côté de l'alcoolisme d'un proche, et pourtant, les indices sont nombreux. Donc à savoir, concernant cet appartement, un miroir brisé, hein, on nous dit témoin de la honte que ressent l'alcoolique vis-à-vis d'elle-même et des transformations que l'alcool fait subir à son visage et à son corps, des grains de café et des chewing-gums pour masquer l'haleine éthylique, hein, de Laurence lorsqu'elle se rendait au travail, des lames de rasoir ensanglantées dans la salle de bain qui traduisent une détresse profonde, des signes religieux, hein, seul recours de Laurence pour essayer de trouver une lueur d'espoir dans cette situation. Tous ces indices, hein, nous dit-on, sont des marqueurs de symptômes de l'alcoolisme. Et donc sur ce jeu, hein, à vertu pédagogique, hein, les addictologues Michel Reynaud et Amine Beyamina décryptent tous ces indices et expliquent les raisons de ces comportements pour tenter de mettre en lumière les déterminants de l'alcoolisme. Là, je fais une petite parenthèse. Là, il y a vraiment une différenciation faite par cette opération sur l'alcoolisme féminin. Donc j'imagine que si les spécialistes mettent l'accent dessus, c'est qu'il doit prendre des formes légèrement différentes malgré tout. Mais je pense qu'on peut retrouver aussi ce type de comportement chez certains hommes. Il y a aussi le fait que l'alcoolisme chez les femmes est beaucoup plus tabou que chez les hommes, toujours, hein, pour des raisons complètement crétines, hein, et culturelles, bien sûr. Mais c'est malheureusement le cas. Ce qui explique aussi peut-être le fait de faire une prévention beaucoup plus accrue au niveau de cet alcoolisme féminin qui finalement n'est pas très représenté, y compris dans les campagnes contre l'alcoolisme où on en voit la plupart du temps que des hommes. Tout le but, hein, de cette opération, nous dit le site, c'est évidemment pour nous aider à évaluer une dépendance à l'alcool, que ce soit pour nous ou un proche, hein. Et donc Addict Aid est là pour aider, pour renseigner et propose différents outils et des orientations, que ce soit pour le soin et autres aides absolument primordiales dans ce genre de situation. Et sur le Huffington Post, hein, on a pu lire que Laurence, donc, bien sûr, existe vraiment, hein, comme je vous l'ai précisé il y a quelques minutes. Le site, hein, nous rappelle, donc, le Post nous rappelle que Laurence Cottet est un ancien cadre, hein, d'un grand groupe du BTP qui a perdu son mari à 35 ans, ce qui l'a fait plonger donc dans l'alcoolisme. Dans l'appartement reconstitué qu'elle habitait, nous explique le papier, se trouvaient donc divers indices, comme je vous les décrivais tout à l'heure. Laurence Cottet, d'ailleurs, s'exprime, hein, en disant « Je prenais beaucoup d'argent liquide, hein, 2000 à 3000 euros, pour pouvoir acheter de l'alcool quand j'oubliais mon code de carte bleue. » Et que c'est en 2009, hein, lorsqu'elle s'effondre ivre à une réception de 650 personnes dans son entreprise, que son alcoolisme est de facto révélé au grand jour, et elle dit que cet incident l'a sauvée, qu'elle n'avait plus à se cacher, et 48 heures après, elle se faisait prendre en charge et ne boit plus depuis 9 ans. Je pense qu'on a tous été confrontés à ce genre de situation, que ce soit par une connaissance lointaine ou des témoignages qu'on a pu retenir ou peut-être par des proches. Donc je trouve que cette démarche est intéressante. Alors bien sûr, ce principe, hein, est dérivé du serious gaming. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à ce genre de jeux qui ont des tendances pédagogiques, informatives, etc. Et qui vous apprennent des choses à travers un prisme ludique. Effectivement, les grandes marques l'utilisent aussi, hein, énormément. Je trouve la démarche vraiment très intéressante. Sensibiliser sur certaines causes à travers le prisme ludique me paraît vraiment une démarche des plus pertinentes. On manque peut-être de recul à ce niveau-là, mais peut-être aussi que l'efficacité est également au rendez-vous. Donc tout ceci est à retrouver, hein, sur addictaid.fr/... Le secret de Laurence, vous avez toutes les informations, tous les liens, et comme je vous le disais, bien sûr, vous retrouverez tous les liens dans la description de l'émission. Petite brochette de news pour terminer cette émission, je lis. Tout d'abord, hein, nous avons appris que dès le mardi 20 février, donc, hein, ça arrive très bientôt, autrement dit la semaine prochaine, hein, comme qui dirait, Blanca va rejoindre le casting de Street Fighter V. Et oui, Blanca, celui qui faisait partie des tout premiers personnages du mythique Street Fighter 2, va arriver pour la saison 3 de Street Fighter V. Il pourra donc être débloqué avec une quantité, alors je ne sais pas, on n'a pas encore le chiffre exact, mais de Fight Money, hein, donc la monnaie dans le jeu, ou bien acheter avec le caractère Pass qui comprend aussi Sakura, Folk, Cody, Jay et Sagat. Bienvenue à toi, Blanca, je pense que tu as manqué à beaucoup de monde et je suis certain que c'est le personnage fétiche de bon nombre d'entre vous. On a aussi appris que l'exceptionnel remake de Shadow of the Colossus fait un carton outre-manche. C'est JFK, l'Institut JFK, qui a donc communiqué sur des chiffres astronomiques, puisque nous avons appris que ce remake, donc réalisé par Blue Points, a vendu pour sa première semaine 73% d'exemplaires en plus que le jeu original sur PlayStation 2. Sachant que le Shadow of the Colossus original sur PS2 restait à ce jour, si on se fie vraiment aux copies PS2, le jeu le plus vendu de Fumito Ueda. Donc ça promet un bel avenir et cela prouve vraiment que ces remakes ont une légitimité. Alors je sais qu'en ce moment il y a des bruits de couloir qui rôdent un petit peu partout, comme quoi Bluepoint travaillerait sur un remake du premier Metal Gear Solid. Alors là, excusez-moi, mais pareil, ce serait complètement fou. Vive les remakes, ceux qui râlent sur les remakes, de toute façon, j'ai envie de vous dire, eh ben, achetez les nouveautés à côté. On n'a jamais eu une offre aussi pléthorique en matière de jeux vidéo. On n'a jamais eu un rapport aussi gigantesque, quantité, qualité. Les remakes, finalement, si ça vous dérange, eh ben, ne les achetez pas. En tout cas, bravo pour Shadow of the Colossus. J'espère pouvoir le faire un jour. Voilà, si quelqu'un veut me faire plaisir, pensez à moi. Troisième petite news de cette brochette savoureuse. Lors d'une séance de questions-réponses chez Nintendo, Shigeru Miyamoto, qu'on ne présente plus, on a dit un peu plus sur ce qu'il pense du cycle de vie de la Switch et il aimerait que ce cycle soit beaucoup plus long que les consoles précédentes de la firme. Il dit, je cite, « Quand on pense à tout ce qui peut être fait avec la Switch, dans la mesure où chacun peut l'emporter avec soi, on se rend compte des nombreuses caractéristiques qui ne sont pas disponibles sur d'autres consoles aujourd'hui. Nintendo a mis en place un système dans lequel les développeurs se concentrent sur ses spécificités lorsqu'ils réfléchissent à leur jeu. Jusqu'à présent, le cycle de vie de nos consoles tournait autour de 5 ou 6 ans. Mais ce serait vraiment intéressant si nous parvenions à prolonger ce cycle. Nous allons en tout cas viser cet objectif. » Alors c'est très intéressant puisque le côté un petit peu à la traîne techniquement, mais qui n'est pas du tout rédhibitoire pour moi et visiblement pour beaucoup de monde vu le succès de la Switch, mais en tout cas le fait qu'elle soit moins puissante que les autres consoles de sa génération peut rendre ce discours un peu étonnant, mais je pense qu'on s'achemine peut-être vers un modèle à la Apple toujours, avec peut-être des révisions de la machine avec des modèles plus puissants mais toujours compatibles avec les toutes premières cartouches de la Switch et tous les services qui y sont liés. Donc ça c'est assez intéressant et voir comment ça va se dérouler à l'avenir, j'ai envie de vous dire. C'est ainsi que se termine cette émission du mardi. Merci de l'avoir suivi, que vous l'écoutiez via iTunes, PodCloud, Deezer, que vous la téléchargez ou que vous m'écoutiez sur Radio Bourrin. Coucou les copains. Eh ben écoutez, ça me fait plaisir. Je vous rappelle que demain mercredi, le mercredi, c'est le jour de la rubrique 100% Japon, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission. Tous les mercredis, vous avez les news, bien sûr, comme d'habitude, plus la rubrique 100% Japon qui revient donc sur une actu typiquement japonaise, que je vais vous glaner sur des sites étrangers en veux-tu, en voilà, que je traduis de mes petits doigts. Bref, tout ça rien que pour vous. N'hésitez pas à passer sur le Tipeee, tipeee.com/la-revue-de-presse-jv. Tapez ça sur Google, vous arriverez tout de suite sur ma page. Si vous voulez m'aider à réaliser cette émission donc dans de meilleures conditions, vous savez que je m'occupe de mon fils. La revue de presse JV, c'est un gros pari. J'ai vraiment besoin de vous, donc n'hésitez pas. Il y a des chouettes contreparties. Un épisode inédit le samedi, la possibilité de m'accompagner au micro chaque mois pour la grande revue de presse JV. Bref, il y a pas mal de choses, des news inédites, etc. Allez voir tout ça sur le Tipeee. En tout cas, ça me ferait plaisir si vous allez juste lire déjà la page pour voir un petit peu mon point de vue, que vous soyez d'accord ou pas. Ça me fera, quoi qu'il arrive, plaisir que vous ayez pris 2-3 minutes de votre temps pour lire ma prose sur ce sujet. Portez-vous bien, bon courage pour le taf, bon courage pour ceux qui en cherchent. C'est pas facile les copains, on s'accroche, bon courage avec ce temps. Vive le jeu vidéo, vive la France, vive la République. Nous sommes la nation jeux vidéo, ne l'oubliez jamais. Et puis je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.